ces gens qui font la différence, avec Sophie Stanquet.
Mesdames, Messieurs, bienvenue à ces gens qui font la différence. Nous recevons Pierre Mainville, il est membre de l'équipe nationale canadienne olympique. Il a été le premier médaillé au Canada en championnat du monde d'escrime en fauteuil roulant. Il a participé aux Olympiques d'été de Pékin en 2008 et à ceux de Londres en 2012. Il est actuellement en préparation pour les Jeux de Rio en 2016. Au sein du comité paralympique canadien, il est surnommé le perfectionniste car son objectif est de ne faire aucune faute lors de chaque combat. En plus d'être un athlète d'élite paralympique canadienne, Pierre Mainville donne des conférences sur la motivation et le dépassement de soi. Il est aussi maintenant chroniqueur mensuel à l'émission « Ça vaut le détour » animée par Luc Fortin ici à Canal M le jeudi à midi. Et dans ses médailles, eh bien, il a 2 médailles d'argent, 13 médailles d'argent en championnat et Coupe du monde. Nous le recevons tout de suite après. Pierre Mainville, bienvenue dans nos studios à Canal M.
Merci.
Je vous regardais, vous aviez les yeux un petit peu pétillants quand je nommais toutes vos réalisations. Qu'est-ce que ça vous fait si je vous pose la question?
Ben moi, c'est plus gênant, je peux dire. C'est pas des choses que je fais pour avoir une accumulation de médailles. Je le fais parce que j'ai du plaisir à le faire. Donc, c'est plus ça. C'est comme un peu entendre sa voix. C'est pas quelque chose que j'adore faire. Donc, c'est juste ça.
Alors, Pierre Mainville, on va aller dans le passé. Comment a été votre enfance? Vous êtes né où? Comment ça s'est passé?
Ben, mon enfance, moi, premièrement, je suis né à Saint-Jérôme, donc j'ai toujours habité là. Je suis né de parents qui n'avaient pas nécessairement beaucoup d'argent, donc c'est sûr que moi, mon père, il était alcoolique, ma mère était soumise à mon père. Donc c'était difficile côté monétaire. Qu'est-ce que je peux dire? J'avais beaucoup d'amis, puis mes amis, quand on était jeunes, j'avais un de mes amis qui s'appelait Steve, justement, et un autre qui s'appelait Rodrigue. Puis Steve, lui, quand j'étais jeune, lui, vu qu'il avait un an plus vieux que moi, quand on voulait faire des sports, soit dans la rue ou quoi que ce soit, mais puisque moi, j'avais pas nécessairement... On n'avait rien pour pouvoir faire les sports, donc souvent, on jouait au hockey dans la rue. Bon, mais pour jouer dans la rue, mon ami me prêtait un bâton de hockey. Ou bien c'était une mythe pour jouer au baseball. Puis aussi, vu qu'il était un an plus vieux que moi, donc il nous amenait le linge de l'année d'avant. Donc, j'avais la chance d'avoir des bons amis autour de moi. Puis, c'est ça, tranquillement, on a grandi à faire du sport. Puis j'ai bien été à l'école. Je passais toujours dans mes cours jusqu'au secondaire 5. Puis, à l'âge d'environ 17 ans, justement, cet ami Steve-là a eu un accident de trois roues. Puis, il est devenu paraplégique. Donc, je vais vite dans ma vie. Là,
non,
je sais pas
mais si... c'est tout à fait, c'est parfait. Donc, parce que, justement, je voulais en venir, votre ami, votre meilleur ami, qui, déjà, vous a un petit peu initié au sport, vous alliez avec lui. Donc, à 17 ans, il devient paraplégique, puis cette amitié se développe, et non seulement elle se développe, vous mettez la main à la pâte, vous allez avec lui dans ses activités sportives.
Exactement. Ben Steve, ce qui se passe à cette époque-là, à 17 ans, c'est que lui, comme il perd une partie de lui, puis nous, on veut pas le laisser tomber comme ami. T'sais, c'est pas parce qu'il est en fauteuil roulant que ce sera plus notre ami. Donc, puis c'était quelqu'un qu'on appréciait beaucoup. Donc, moi et Rodrigue, on a décidé de commencer à faire du sport avec lui. Donc, c'était le hockey luge à cette époque-là. Donc, le hockey sur luge, dans le fond, comment ça joue, c'est on joue comme assis, puis il y a des patins en dessous de la luge, puis on se propulse avec deux bâtons, avec des pics au bout. Puis, c'est ça, on joue à ça. Il y avait une équipe à Saint-Jérôme, à Laval, à Repentigny, puis à Longueuil, puis on fait des tournois, des mini-tournois, puis on aime ça, on aime autant ça, ça joue contact. Donc, à l'âge d'environ 22 ans, Je fais mon premier voyage. Puis mon premier voyage, je le fais, c'est avec Steve. C'est un voyage qu'on a gagné, vraiment chanceux. Puis on s'en va au Mexique. Puis c'est la même chose. Steve, moi, pour moi, je vois plus son fauteuil roulant. T'sais, je vois juste qu'un ami qui a des fois besoin d'aide, comme un peu n'importe qui, dans le fond. Puis c'est ça. Donc la vie continue. Puis à un moment donné, c'est à mon tour, là, à l'âge de 27 ans.
C'est ça, on va en parler, mais je ne veux pas qu'on s'étende là-dessus beaucoup parce que justement, vous êtes vraiment une figure de quelqu'un qui est très positif, qui est allé de l'avant. Mais je veux quand même en parler parce qu'il y a des gens qui ne sont pas au courant, qui vont me dire, mais Sophie, il faut absolument qu'on relate ce qui s'est passé. Alors, donc, le 23 juin 2001, vous êtes dans une voiture et la fameuse poursuite de cet agent de la GRC. Jocelyn Hott, qui, par jalousie, par folie, on ne saura jamais réellement, commence à tirer comme un fou sur son ancienne, sur sa conjointe, c'est ça?
Oui, c'est ça, exactement. Nous, si je peux décrire un peu la soirée...
Allez-y,
là.
Parce que les gens veulent en connaître davantage, effectivement.
Bien, c'est nous, le 23 juin 2001, c'est la veille de la Saint-Jean, donc on décide de sortir dans les bars. Moi, comme je vous ai dit, je viens de Saint-Jérôme, donc je connais pas trop Montréal. Puis j'ai un cousin qui habite Laval. Puis ce cousin-là, lui, lui connaît plus Montréal que moi. Puis il y a une voisine, quand on arrive chez lui, il y a une voisine qui est là, qui ne veut pas rester toute seule parce qu'elle a peur. Elle a eu des menaces de mort de son ex-conjoint. Puis elle dit, écoutez, elle dit, moi, je ne vais pas faire de trouble avec vous. Je vais être votre conducteur désigné. Je ne veux juste pas être toute seule chez moi. Donc, nous...
Donc, vous ne la connaissiez pas?
Non. Mon cousin, lui, la connaissait. C'était comme sa confidente. Mm-hmm. Mais nous, moi j'étais avec un autre ami à ce moment-là, puis nous on la connaissait pas vraiment. Puis effectivement, pendant la soirée, elle a tellement peur qu'à chaque fois qu'elle doit passer sous une grande fenêtre, là, il y a comme une grande fenêtre qui donne sur un restaurant, puis elle est tellement sûre qu'elle se fait épier, puis elle dit en plus que c'est un tireur d'élite, elle a peur de se faire tirer à travers la fenêtre. Que chaque fois qu'elle doit passer devant cette fenêtre-là, elle se met à quatre pattes, elle marche à quatre pattes pour aller soit aux toilettes ou soit aller chercher des choses. Donc, mon cousin, pendant la soirée, il ferme la fenêtre, puis nous, on se regarde. On la trouve un peu bizarre,
ah oui.
Mais on ne sait pas nécessairement les conversations qu'elle a eues, puis mm-hmm. tout ça. Donc, on sait juste qu'elle veut venir avec nous. Donc, arrive le temps pour sortir dans le bar. Donc, effectivement, elle nous amène à sa voiture. On passe justement devant le restaurant qui était devant la fenêtre, comme on voyait. Puis effectivement, il y a une auto qui sort de ce stationnement-là puis qui commence à nous suivre puis qui met les bases pour nous faire signe, parce que là, c'est le soir, là, pour nous faire signe de nous arrêter. Donc, elle a dit, c'est lui, qu'est-ce que je fais? C'est sûr, elle était paniquée, là. Mais on lui dit qu'elle va lui parler. Au pire, invite-le avec nous. Nous, on va rester toute la soirée ensemble, mm-hmm. donc il n'y aura pas de problème. On est trois gars, il est tout seul. Donc, tu sais, si jamais il se passe de quoi, on lui parlera. Puis elle accepte, elle va lui parler. Puis quand nous, on baisse le son de la voiture pour écouter, voir si la conversation devient à s'engueuler ou quoi que ce soit. Puis on écoute. Puis finalement, on n'entend pas que ça gueule nécessairement. Là. Ça a l'air de juste des personnes qui se parlent. Donc, quand elle revient, elle dit « bon, ben c'est parfait ». Elle dit « il va nous suivre, il va venir avec nous ». Fait qu'on continue, puis là, on arrive sur l'autoroute 13. Puis à partir de l'autoroute 13, là, il vient à côté de nous, puis il nous fait signe de nous tasser sur le côté, comme un policier sait le faire, là, quand on a une étiquette, là, quand il nous dit...
Avec ses mains sévères,
c'est ça, avec
dit?
Les doigts
pointés, là.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Puis on décide de ne pas s'arrêter, on lui fait signe de nous suivre, parce que nous, on croit à ce moment-là qu'il a peur qu'on aille trop vite puis qu'on le perde. Donc, on fait juste lui faire signe de nous suivre. Puis lui, à ce moment-là, je ne sais pas comment il l'a interprété, mais il n'a pas aimé ça. Fait qu'à ce moment-là, il a commencé à nous rentrer dedans avec son véhicule à plusieurs reprises. Là, Lucie, c'est sûr que... Lucie, c'est la femme qui était dans la voiture. Lucie, elle est en train de parler au cellulaire. Puis on rase de prendre le champ, dans le fond, de prendre le fossé.
Bien sûr.
Puis moi, je me détache à ce moment-là. Puis moi, je suis en arrière. Mon cousin est à côté d'elle. Puis mon ami David, qui est à ma gauche. Puis moi, je me détache, puis je me mets au milieu, puis je dis, donne-moi le cellulaire, moi, je vais parler, parce qu'elle, elle parle au 911, parce que là, elle a peur, elle dit, elle répète que c'est Jocelyn Hutt, que c'est un tireur, puis bref, qui nous pourchasse. Puis à ce moment-là, tout ce que je sais, je connais, comme je vous ai dit, je connais pas Montréal, donc tout ce que je fais, je parle au 911, puis je dis les noms de rues que je vois passer, là, les pancartes. Puis, à un moment donné, je me rends compte qu'il commence à avoir beaucoup d'air dans le véhicule, qu'il y a des bruits. Puis là, c'est Lucie qui nous dit, il nous tire dessus. Là, à ce moment-là, il n'y a plus vraiment de son. Là. Tout le monde comprend pas ce qui se passe. On est comme dans un rêve. Là. On
n'y croit pas, c'est irréel.
Ben, c'est ça.
C'est dans l'ordre de l'irréel, quoi.
Puis c'est pas comme dans les films. T'sais, dans les films, on entend les pow-pow, mais quand on est dans la voiture en avant, on n'entend pas ça. On entend juste des bruits de plastique qui comme des impacts de plastique, puis des fois, des vitres qui vont briser. Donc, c'est un moment. Ça a duré quoi? Ça a duré peut-être 10 minutes la poursuite, mais pour moi, ça a duré presque 2-3 heures. Là. Le temps était au ralenti, on était vraiment sur l'adrénaline. Puis je me rappelle, je vais vous épargner quand même certains détails, là, mais je me rappelle de mon cousin qui était complètement rendu dans le fond où on met les pieds là, dans la voiture. Là. Il était rendu là, il y avait beaucoup de sang. Puis, à un moment donné, on est arrivé au bout de la 13, puis il y avait du trafic. À Montréal, il y a toujours du trafic. Fait que même si on y était 23 heures le soir, ben là, c'était jamais. Puis là, lui, Jocelyn Hutt, il est arrivé juste à côté de nous, il a tiré ses dernières balles. Puis ensuite, il s'est en allé. Donc, les dernières balles, il les a tirées à bout portant, puis ils ont été à Lucie, qui a tiré à la tête.
Bon, on va faire une petite pause musicale. On revient avec la fin de cette histoire-là pour commencer avec votre nouvelle histoire de vie après. Ouais. Et vous choisissez toujours les chansons, cette émission, Don't Stop Believing, Journey, pourquoi?
Ben, c'est une chanson qui vient me chercher beaucoup, que ce soit par rapport à soit à mon escrime ou soit à mon sport, c'est de toujours y croire, de toujours aller de l'avant. Puis c'est une chanson qui vient me chercher comme beaucoup de gens. Là. Moi, j'adore cette chanson-là.
Alors, on l'écoute.
Sun.
Nous sommes en direct, mesdames, messieurs, avec Pierre Mainville, escrimeur et conférencier. Justement, les paroles de cette chanson, Don't Stop Believing, hein? Arrête pas d'y croire, c'est ce que vous avez, vous êtes dit, parce que bon, on va terminer avec l'accident. D'ailleurs, je pense que vous n'avez pas, ça va d'en parler, vous en parlez à votre conférence.
Oui, exactement, j'en parle à ma conférence, j'en parle souvent, ça fait partie de ma vie. Hein,
voilà, c'est ça.
Moi, je ne m'empêche pas de parler de ma vie, c'est moi, donc...
C'est comme ça que c'est parti, puis vous avez été vraiment dans les médailles et tout, alors c'est extrêmement positif. Donc, finalement, il y a Lucie Gélina qui meurt.
Oui.
Vous êtes atteint à ce moment-là, c'est ça?
Oui, c'est ça. Moi, je suis atteint pratiquement à la fin de la poursuite. Il y a une balle. J'ai eu seulement qu'une balle. Puis elle a été à la moelle épinière, donc à la colonne vertébrale, à la moelle épinière au niveau D3. Pour ceux qui ne connaissent pas l'anatomie nécessairement, c'est au niveau des pectoraux.
Les pectoraux.
Ouais.
Et suite à ça, vous êtes paraplégique. Donc c'est combien de temps? Ça s'est fait tout de suite? L'annonce s'est faite comment?
Bien, aussitôt que j'ai reçu la balle, j'ai tout de suite perdu l'équilibre. Je sentais plus mes jambes. J'ai perdu le souffle premièrement, donc je pensais que moi, j'étais atteint au cœur. J'ai perdu le souffle, j'ai arrêté de respirer. C'est comme quand on tombe sur le dos, on est comme plus capable de respirer. Donc, ça a pris quelques secondes avant que je reprenne mon souffle. Puis comme moi, je pensais que je mourrais à ce moment-là. Donc, c'est sûr que quand que je suis arrivé à l'hôpital, ils m'ont dit, après l'opération, justement... Ils m'ont dit que j'étais pour être paraplégique, puis que moi j'étais pratiquement content. Là. Je savais que j'étais pas pour mourir. Fait que puis je savais qu'il y avait une vie après une paraplégie, puisque mon ami Steve il était en fauteuil roulant avant moi. Puis c'est la même chose quand il est arrivé dans la chambre. J'ai dit, hey Steve, on va pouvoir continuer à jouer au hockey sur lui. Puis lui il est parti à pleurer. Mais moi, c'est sûr, j'étais aussi sur la morphine. Donc la vie était un petit peu plus belle. Mais c'est ça, ça a pris. Quelques jours pour accepter vraiment là, ce qui s'était passé. C'est sûr que on se dit toujours je serais plus capable de marcher, de danser, je serais plus capable de peu importe, mais après ça tu te rends compte que la vie moi ce que je me suis rendu compte c'est que la vie on se donne des limites. Puis dans le fond, puis les gens nous donnent des limites aussi, mais c'est juste une interprétation de ce que c'est une limite, comme que je viens de dire. Je pourrais plus danser, mais c'est quoi danser? Dans le fond, c'est de s'amuser sur de la musique. Je pourrais plus danser, peut-être debout. Là, c'est autre chose, mais danser, je suis encore capable de danser. Puis je l'ai prouvé, mais ça, c'est...
Mais en même temps, on sait qu'il va faire de la prison, Jocelyn Hoth. Ensuite, il décède d'un cancer. Mais il y avait comme une espèce de bataille. Vous vouliez... aller dans la poursuite à ce niveau-là pour dire quoi? Je pense que c'était pour aider les gens.
Je comprends pas la question.
C'est-à-dire que vous vouliez qu'il y ait une justice, enfin qu'il soit dans ce combat-là. Vous êtes sorti, vous avez dit je veux que ça apprenne quelque chose à la société.
Ben nous on a eu je suis pas sûr de la question que vous voulez me poser mais nous on a quand c'est la poursuite contre Jocelyn Hoth, dans le fond ça c'est la cour normale qui demande d'aller là. Moi c'est sûr que j'ai dit je voulais effectivement qu'il aille en prison parce que peu importe que ce soit pour Lucie, pour tout le monde, c'est pour la société, puis en même temps pour dire tu sais, qu'est-ce qu'il avait fait, là? Il a fait du mal à plusieurs familles. Donc, c'est sûr que à cette époque-là, moi, j'avais dit, moi, j'ai ma prison à vie parce que je suis en fauteuil roulant.
C'est ça.
Puis il faut qu'il paie pour ce qu'il a fait. Mais ça, c'était vraiment au début, là. Si vous me rappelez, je me rappelais même plus que j'avais dit ça, là. Mais vous me rappelez ces souvenirs-là.
Ces souvenirs-là. Donc après, il y a quand même votre complicité avec votre ami, votre meilleur ami. Puis là, au niveau des sports, comment ça chemine d'être... Parce que là, vous avez tout un titre, puis escrimeur. Pourquoi? Je pense que vous avez essayé plusieurs sports avant.
Oui, c'est ça. Bien, j'ai essayé effectivement tous les sports en fauteuil roulant que j'avais accès, que je pouvais faire. Donc, c'est sûr, moi, j'ai toujours été bon dans les sports. T'sais. Comme je vous ai dit au début de ma vie, on n'avait pas beaucoup d'argent à la maison, Mais aussitôt que j'avais la chance d'essayer un sport, j'adorais ça. Je les essayais toutes, je les faisais tout. J'avais la chance d'être bon parce que sûrement parce que j'aimais ça, tout simplement. Puis, en fauteuil roulant, c'est la même chose. J'ai essayé un petit peu tous les sports. J'avais beaucoup de coordination, donc ça...
Qu'est-ce que vous avez essayé?
Alors, j'ai essayé le tennis, j'ai essayé le ping-pong, j'ai essayé la voile adaptée, j'ai essayé le basketball en fauteuil roulant, le hockey sur luge. J'ai essayé même le squash, le racquetball. J'ai essayé la course, j'ai essayé le kayak. Je me rappelle pas tout. Puis à un
Beaucoup,
moment
hein?
donné, quand j'ai essayé l'escrime, je suis tombé en amour avec ce sport-là.
Ah.
Donc tout de suite, en l'essayant, j'ai dit, ah, ça vient me chercher. Donc c'était un des seuls sports de combat qui existait en fauteuil roulant. Je pensais encore le seul. Puis à partir de là, j'en faisais une fois par semaine. Puis après ça, j'en ai commencé à le faire deux fois par semaine. Puis là, j'ai essayé. On avait une Coupe du Monde à Montréal à ce moment-là. Puis quand j'ai fait ma première Coupe du Monde, j'ai décidé, je dis, regarde, c'est ça que je veux faire. Je me mets à 100% là-dedans. Puis là, maintenant, j'en fais à tous les jours.
Alors, comment vous trouvez votre coach? Est-ce que c'est facile? Parce que même, je veux dire, c'est un sport ici qui n'est pas comme en Europe, hein, aussi populaire. C'est normal, on a chaque pays a son sport. Vous arrivez, qui vous propose d'y aller pour la première fois à l'escrime?
La première personne qui m'en a parlé de l'escrime, c'est une fille qui s'entraînait avec moi à Lucie Bruneau, dans le fond. Ça, c'est un centre de
Oui.
réadaptation. Puis, elle me dit, regarde, moi, je fais de l'escrime, t'as-tu essayé ça? Je dis, non, je savais même pas qu'on pouvait faire ça en fauteuil roulant. Puis elle a dit, viens l'essayer. Puis c'est là que j'ai rencontré France et Patrice Duclos. C'est un couple c'est eux qui ont amené l'escrime adaptée ici au Québec. Puis j'ai commencé à faire l'escrime avec eux. Puis c'est avec eux que j'ai fait mes premières Coupes du monde. Puis après ça, rendu à un certain niveau, j'ai changé d'entraîneur. Puis j'ai trouvé Ildemaro Sanchez, qui est mon maître d'armes maintenant, que c'est avec lui que je fais l'escrime pratiquement tous les jours. Et un autre maître d'armes aussi qui est à l'épée, parce que je fais deux armes, je fais le sabre et l'épée. Le sabre, c'est avec Ildemaro, puis à l'épée, c'est Julian Badea, lui, c'est un Roumain.
Oui, il y a beaucoup de maîtres roumains. Hein. Je pense que c'est vraiment là. Mais dites-moi, la première fois, qu'est-ce que votre premier maître vous a dit? Parce que souvent, on a une passion, et puis c'est le maître qui dit, t'as une douance, vas-y, t'es bon. Est-ce qu'on vous a encouragé dans ce sens-là de dire, waouh, je pense que vraiment, non seulement vous êtes passionné, mais vous avez du talent pour ça?
Ça y va. Moi c'est sûr qu'on m'a dit que j'étais doué, mais dans tous les sports, je sais que j'ai une facilité à apprendre parce que j'aime ça. Donc, c'est sûr que l'entraîneur, il est intéressé à me pousser, à continuer. Puis ça, c'est tous les entraîneurs sont comme ça. Hein. Ils ont tout le temps. De toute façon, les entraîneurs au Québec, je trouve, c'est des passionnés. Que ce soit au hockey, que ce soit dans n'importe quel sport, souvent, ils ne sont pas payés pour le faire au début ou à peu près pas. Puis ils sont tellement passionnés qu'ils te poussent pour essayer de te faire apprendre et de te faire aimer ce sport-là. Puis, c'est ça. Moi, quand j'ai essayé l'escrime, quand j'ai commencé à en faire, j'ai aimé ça. Puis c'est sûr qu'on m'a poussé, qu'on m'a dit, ah, t'es un talent, t'es bon, tu pourrais continuer. Puis, mais c'est ça, hein, c'est la différence entre devenir bon et devenir excellent,
Oui.
c'est le temps qu'on va y consacrer.
Oui.
C'est ce que je fais présentement.
Alors, combien d'années?
Que je fais l'escrime
Oui.
depuis mon accident. Donc, ça s'est passé en
2000.
2001. Donc, ça va faire 13, ça fait 13 ans, là, presque 14 ans.
13 ans. Alors, on écoute un prochain choix musical. Michael Jackson, Man in the Mirror.
Oui.
Pourquoi?
Ben, Man in the Mirror, parce que ça parle de quand on se regarde dans le miroir, souvent c'est la première personne qui peut changer les choses. Donc, si on veut changer les choses, on a juste à se regarder dans le miroir puis à se le demander. Puis c'est la première personne à qui le demander, c'est à nous-mêmes.
Change for once in my life. It's gonna feel real good.
gonna make a difference, gonna make it right. And as I turned up the collarbone, my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street, but not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them? Disregard a broken bottle top and a one-man show. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere to go. That's why no one got to know. I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his way.
Ces gens qui font la différence. Voici Sophie Stanquet.
Nous sommes en direct avec Pierre Mainville, escrimeur et conférencier. Et je vais aller un petit peu dans votre vie privée, si vous me permettez.
D'accord.
Parce que célibataire avant l'accident, mais après, c'est extraordinaire ce qui vous arrive dans le sens que vous rencontrez l'amour. Et non seulement vous rencontrez l'amour, mais l'espoir est là, la vie est là. Et vous avez des enfants et le médecin vous dit non, il n'y en est pas question, tu n'auras jamais d'enfant.
Bien, il dit que ça va être peut-être possible, mais il va falloir que je fasse appel à la science parce que j'avais eu un spermogramme. Puis le spermogramme disait que mes spermatozoïdes, j'avais 5 % de ce qu'un homme normal avait. Et en plus de ça, il était au ralenti, puis il n'allait pas en ligne droite. Donc, c'était pratiquement impossible d'avoir des enfants de manière normale, de manière naturelle. Donc, il faudrait que je fasse appel à la science. Donc, comme je vous ai dit tantôt, là, c'était une limitation qu'un médecin m'avait mis. Puis, nous, on a quand même décidé d'essayer, quand mm-hmm. même, toute seule, sans les médecins. Puis, en essayant, la première fois, on a réussi à avoir un enfant. Donc, on le croyait pas, là. C'est mm-hmm. sûr qu'on le faisait. Puis moi, c'est sûr qu'on voulait des enfants, mais on n'avait pas nécessairement confiance qu'on pourrait en avoir naturellement. Donc, en essayant, on s'est dit « Wow! » on a-tu bien fait de juste essayer? Puis ça a été vraiment une révélation parce que maintenant, aussitôt que quelqu'un me donne une limitation ou peu importe, moi, j'essaye toujours de briser cette limite-là. Mais pour en revenir aux enfants... Bien, c'est sûr que là, on est rendu à un deuxième. On a eu la première qui était Chloé. Le deuxième, c'est Ludovic. Puis on est pleinement heureux avec ces enfants.
C'est la joie. Alors, je vais donner, vous m'avez dit, j'aime pas qu'on dise mes médailles et tout, mais je vais les donner parce que c'est important. Mai 2014, Coupe du Monde, Lonato, Italie, épée, argent. Mai 2014, Coupe du Monde, Lonato, sabre, bronze. Avril 2014, Grand Prix Défi Sportif de Montréal, Canada, sabre, bronze aussi. Janvier 2014, Coupe du Monde, Malchow, Allemagne. Je le prononce pas bien. sabre bronze. Avril 2013, Coupe du Monde, Défi Sportif Montréal, Canada, sabre bronze. 2012, 7 Jeux Paralympiques, Londres, sabre. Alors, 5 fois, vous montez sur le podium.
Oui.
Qu'est-ce que ça vous fait d'être rendu là? Est-ce que vous pensiez avoir toutes ces médailles et vous rendre aussi loin?
Bien, c'est sûr que. Quand on travaille fort, moi j'ai un maître d'armes là, qui dit toujours que les bons résultats sont la conséquence d'un travail bien fait.
Mm-hmm.
Puis c'est sûr que ça garantit jamais le succès. Mais quand on travaille fort, puis quand on y met l'acharnement, souvent on peut y arriver. Donc c'est un petit peu ça qui s'est passé. Moi, je travaille beaucoup. On fait de l'analyse vidéo, on fait mm-hmm. de tout. Donc c'est sûr qu'à un moment donné, il faut que ça paye. C'est ce qui se passe présentement. Là. Ça va bien en escrime. C'est sûr qu'on n'est jamais à l'abri des blessures puis tout ça. Mm-hmm. Puis c'est ce qui peut arriver quand on travaille fort. Mais moi je suis très satisfait. Puis surtout qu'ici au Canada, comme vous avez dit, c'est pas un pays d'escrime. T'sais, les pays d'escrime, ouais. c'est vraiment les pays européens.
C'est ça.
L'escrime, premièrement, c'est français.
Ouais.
Donc, peu importe dans les pays où je vais, c'est toujours en garde, êtes-vous prêt à aller, c'est toujours en français.
Même si vous allez en Pologne, les gens vous parlent...
en Pologne, c'est en ça. Chine, peu importe, c'est en français. Donc, mais c'est sûr qu'on a emprunté des maîtres d'armes, soit d'Europe ou comme mon maître d'armes, lui, il vient du Venezuela, mais il a étudié à l'INSEP en France. L'INSEP, c'est un institut sportif. Donc, c'est sûr que j'ai la chance d'avoir des très bons maîtres d'armes. Mais effectivement, ben, ce qui me manque, c'est beaucoup les partenaires d'entraînement puis tout ça. Mm-hmm. Mais c'est sûr que quand j'ai la chance d'aller voler une médaille aux Européens, ben moi, ça me fait... Ça me fait très plaisir, mais c'est surtout d'avoir bien fait mon travail, d'avoir bien combattu, d'avoir fait ce que je suis capable de faire. C'est ça qui me rend le plus heureux que la petite pièce de métal au bout.
Ça ressemble à quoi, votre vie dans le quotidien? Une vie d'athlète olympique, c'est pas rien. Pour récolter ces médailles, vous l'avez dit, il y a beaucoup de travail. On vous appelle, on vous surnomme le perfectionniste. Ça ressemble à quoi une vie de perfectionniste?
Ben, c'est pas bon être perfectionniste parce que c'est pas le fun.
Mais ça rapporte!
Ben, ça peut rapporter, oui, mais parce que la perfection, c'est impossible. Donc, c'est sûr que je travaille beaucoup, puis le travail que je fais, c'est... Mais j'essaye d'enlever ce côté perfectionniste-là parce que souvent, on n'est pas content tant qu'on n'arrive pas à la perfection.
Mm-hmm.
Puis ça devient un problème. Mais... c'est sûr qu'une journée de travail, pour moi, une journée de sport, c'est bon, je vais faire de l'entraînement physique. Donc, j'ai une heure d'entraînement, comme mm-hmm. ce matin, avant de venir à l'émission, j'étais allé faire une heure d'entraînement physique. Après ça, ben là, j'aurais été supposé m'entraîner avec mon maître d'armes à l'épée, faire un 2 à 3 heures, plus 2 heures avec lui, puis après ça, essayer de faire des combats avec une autre personne qui va venir s'entraîner avec moi.
Donc, il y a le gym, ensuite, ouais. Vous prenez quelques heures avec votre maître.
Oui, c'est ça. J'ai une demi-heure de repos entre les deux.
Okay.
Donc ça, je vais manger un petit quelque chose, puis après, c'est pas trop, là, mais juste assez. Pour après ça, là, je vais être fatigué physiquement. Puis là, je vais tomber en escrime pour essayer de faire tout l'entraînement, mais plus être mentalement prêt. Donc c'est...
Oui, parce que c'est très, très mental. Il y a une préparation mentale... Juste avant votre combat, c'est beaucoup aussi dans la tête, là.
L'escrime...
La concentration.
Oui, c'est ça. L'escrime, le 95% va être beaucoup dans la tête, là. Mm-hmm. Rendu au niveau où on est rendu, là, c'est... Si tu penses que tu vas pas gagner le combat, c'est sûr que tu gagneras pas le combat. Donc, ça se passe vraiment. C'est une stratégie que tu emploies, puis tu essaies de faire tomber l'autre dans ton piège, puis l'autre, lui aussi, essaie de te faire tomber dans son piège. Donc... c'est quand même... on dit que l'escrime, c'est un jeu d'échecs qui se passe en quelques secondes. Donc, c'est vraiment... Là, on prévoit des coups d'avance. Donc, c'est très, très rapide, mais en même temps, c'est très stratégique. Là. C'est plus stratégique que physique.
C'est presque politique.
C'est presque politique.
Stratège, quoi.
Ouais,
alors, donc, vous terminez avec... vous êtes avec les combats en après-midi. Après?
Ça va être la période de repos. Donc là, je retourne à la maison parce que moi, comme je vous ai dit, j'habite près de Saint-Jérôme maintenant, mais je m'entraîne au stade olympique. Donc,
okay.
J'ai quand même une heure de route pour me rendre et une heure de route pour revenir. Donc souvent, là, ma journée va être terminée parce que ça sert à rien quand le verre est plein. Il faut aller dormir, il faut tout replacer en ordre pour Donc, à 3 heures, ça me donne un 3 heures, donc une heure de gym plus les 2 heures d'entraînement d'épée, plus un petit peu de combat aussi, là, mais...
Alors, il y a dans votre agenda, puis on m'a dit que c'était pas mal plein jusqu'en décembre. Là, vous aviez pas mal de combats déjà à l'agenda. Il y aura les Jeux paralympiques de Rio 2016. Du 7 au 18 septembre 2016.
Oui, c'est ça, exactement.
Donc, vous y préparez?
Oui, oui, on s'y prépare. C'est sûr que là, toutes les compétitions qui s'en viennent, c'est des points qu'on amasse pour pouvoir se qualifier pour les Jeux de Rio. Donc, c'est pas encore sûr qu'on y va.
Okay.
Il faut pas que je me blesse, il faut que je fasse bien mon travail, que je continue. Parce que les adversaires, eux, c'est sûr que eux, ils s'entraînent fort, ils regardent mes vidéos, ils essayent de voir les erreurs que je peux faire, autant ce que je fais moi aussi. Puis, ben, on essaye de bien performer pour pouvoir y aller.
Est-ce qu'on peut dire qu'à Rio, c'est un peu touché le rêve d'y aller là-bas?
Ben, c'est sûr
que... concrétiser, comme on dit?
C'est sûr que c'est ce qu'on vise, c'est le cheminement d'un 4 ans. Si on y va, tu sais, je vais être content, là. Si on n'y va pas, ben, c'est tant pis, c'est pas grave, la vie continue. Moi, j'ai une famille, hein. je suis heureux avec ma famille. Donc, c'est comme ça la vie. Hein. Il y en a plus qui y vont pas qu'il y en a qui y vont. Donc,
OK. Qu'est-ce que vous dites pour vous encourager? Je sais que ça prend des combats puis des points, comme vous disiez.
Mm-hmm.
Ça, c'est le côté réaliste, mais dans votre tête?
Don't stop believing.
C'est vraiment une chanson qui vous va complètement.
Ouais, c'est ça.
Alors, on écoute prochaine chanson, Loco Locas et Ma Québec.
Ben oui, moi, Loco Locas, c'est un groupe que j'adore. Je trouve qu'ils sont riches en vocabulaire. Tout ce qu'ils font, je les écoute, puis je trouve que j'adore tout ce qu'ils font.
Les écoute.
Yeah!
Nous recevons Pierre Mainville, membre de l'équipe nationale canadienne olympique, escrimeur et conférencier. Est-ce qu'il y a eu des moments de découragement entre l'accident, l'avant-Pierre et l'après-Pierre?
Bien, j'ai eu peut-être des petits découragements, mais ça a été... moi, je voulais vivre. Moi, je voulais aller de l'avant. Puis en plus, je savais, comme je vous ai dit, qu'il y avait une vie après une paraplégie. Donc, j'avais vu mon ami Steve pendant les 13 années que lui, il était en fauteuil roulant, que lui, il allait de l'avant. Donc, j'ai eu un mentor, là. Puis lui, il m'a jamais montré, tu sais, qu'il était malheureux ou qu'il... Tu sais, lui, il a continué à faire du sport. Donc, ben peut-être que c'est de la manière qu'on est, mais moi, j'ai été de l'avant. C'est sûr, comme je vous ai dit, tu sais, j'ai eu un petit moment de déprime. Je me suis dit, oh, je pourrais plus faire ça. Puis après ça, j'ai compris que c'était des limites que je me donnais. Puis si je le voyais autrement, je pouvais aller de l'avant.
Donc quand je dis un avant-Pierre puis un après-Pierre, c'est avant l'accident, après, est-ce que vous êtes un autre homme?
Je pense que tout le monde devient quelqu'un d'autre après une épreuve, une grosse épreuve. C'est sûr que je suis rendu beaucoup plus mature. Je suis rendu quelqu'un qui regarde vraiment la vie, tu sais, qui veut la vivre à 100%. Mm-hmm. Donc maintenant, le temps pour moi est important. La vie est importante. Puis que ce soit avec mes enfants, je leur explique c'est quoi la vie le plus possible pour qu'ils essayent de la vivre le plus à 100% aussi.
Un athlète olympique, il y a aussi l'âge. Est-ce que vous pensez à l'après? Parce que c'est malheureusement, des fois, on est obligé de passer à autre chose. On est épuisé et c'est comme ça dans les sports.
Bien, c'est sûr que je vais sûrement faire de l'escrime très longtemps, mais c'est sûr que j'en ferai sûrement pas internationalement longtemps encore parce que, veux pas, comme vous avez dit, je suis fatigué plus des voyages. Tu sais, souvent, il y en a qui disent « Ah, c'est super, tu visites plein de pays ». Mais c'est pas nécessairement comme ça que ça se passe. Là, j'arrive dans un aéroport, j'arrive dans ma chambre d'hôtel, je me prépare, je vois le site de compétition, je retourne à mon hôtel, puis je retourne à l'aéroport, puis je m'en reviens chez nous. Donc, je suis allé en Hongrie, oui. J'ai entendu des gens parler hongrois, mais j'ai pas vraiment visité. Donc, c'est pas toujours très le fun. Il faut vraiment prendre des vacances dans le pays. Puis souvent, si on prend des vacances, bien, ses adversaires, eux, les prennent pas. Donc, ils prennent de l'avance sur toi. Donc...
Il y a toujours ça hein, qui est là.
Oui.
Vous êtes conférencier. Parlez-moi de vos conférences. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça commence comment? Au début de la conférence, vous racontez votre histoire?
Moi,
votre
c'est
accident?
Ça. Un petit peu comme ce qu'on a fait ici. Là. Bon. Je raconte un petit peu ma vie au début, plus en détail. C'est quoi mon handicap? Après ça, mon accident, ma réadaptation. Mm-hmm. Puis après ça, c'est des interprétations de comment je vois la vie. Donc, tu sais, que ce soit les limitations, ce que c'est exactement, comme je viens de dire, ne pas s'empêcher à faire des choses, le travail d'équipe. Oui. Je vais parler beaucoup du travail d'équipe aussi, ce que c'est, parce que moi, même si c'est un sport individuel, il y a une équipe derrière moi. Puis ça, dans les écoles, ça vient toucher beaucoup de gens, puis autant dans les écoles ou dans les entreprises. Mais c'est beaucoup de la motivation, c'est beaucoup de croire en soi, d'aller de l'avant, de pas regarder, regarder un petit peu en arrière, parce que souvent, ce que mon entraîneur dit, il faut vivre à 95% le moment présent, 3% dans le passé, puis 2% dans le futur.
Est-ce que vous y arrivez?
Ah, ben oui, il faut, c'est comme ça. Hein.
Votre réadaptation, ça a duré, dans votre cas, combien de temps?
La réadaptation, la vraie réadaptation, là, ça a duré à peu près un mois. Dans le fond, c'était... Comment ça s'appelle, cette place-là? C'était à l'Institut de Montréal, l'Institut de réadaptation de Montréal. Mm-hmm. Ça a duré un mois. Habituellement, les gens, c'est beaucoup plus lent que ça. Mais moi, comme je vous ai dit, j'ai eu la chance d'avoir un ami qui est en fauteuil roulant. Donc, comme j'avais déjà de l'expérience dans un fauteuil roulant, parce qu'il m'avait prêté son fauteuil roulant pour que je m'entraîne avec. Donc, ouais, j'avais...
Ça, c'était bien, alors.
Oui, c'était bien.
C'est vraiment été une chance dans ce sens-là, là, de pouvoir faire même les sports, vous m'avez dit, plus tôt. Là.
C'est peut-être ça qui a fait que je l'ai eu plus facile que la plupart du monde.
Il y a le volet conférence pour la motivation, mais il y avait aussi un projet très intéressant, Prométhée. Parlez-moi-en, c'est décrochage scolaire.
Oui, c'est ça, c'est des jeunes qui, au secondaire, là, c'est un projet qui a été parti à Saint-Jérôme pour aider les décrocheurs scolaires puis essayer de comprendre pourquoi ils décrochent. Donc, c'est des jeunes qui ont soit des problèmes, soit que ça peut être de la drogue, ça peut être de l'intimidation. On est jumelé à un jeune. Puis on parle avec. C'est comme un peu un grand frère. Mm-hmm. Puis on discute, on essaie de savoir qu'est-ce qui se passe. Puis tu sais, tout est confidentiel dans le fond. Et moi, je peux rien dire à personne. Mm-hmm. Mais j'essaye de l'aider avec mes expériences de vie. Puis ça a vraiment des très, très bons résultats. Puis même qu'on les incite à aller faire un sport parce que souvent, il y a des clubs sportifs qui vont accepter ces personnes-là gratuitement pour qu'ils puissent pratiquer un sport, pour qu'ils raccrochent au côté scolaire.
Et vous, le sport, qu'est-ce que ça vous apporte et qu'est-ce que vous apportez dans votre vie? Si vous aviez justement une décrocheuse devant vous, vous lui diriez quoi?
Ben moi, je pense que c'est important de faire un sport dans la vie, peu importe. De toute façon, tous les médecins s'entendent pour dire qu'il faut faire du sport, il faut faire une activité physique, au moins faire 30 minutes par jour, mais... Moi, c'est le sport, c'est la santé. Donc, il faut le voir comme ça. Il faut aller de l'avant. Peu importe, mais ça fait partie du balancement du mental. Hein. Faut que ce soit une activité physique ou des fois une petite passion, ben il faut décrocher de son travail. Il faut pas juste aller au travail ou juste écouter des émissions à la télé. Moi, je pense que c'est mon côté à moi. C'est important de faire du sport.
Et dans les conférences de motivation, quand vous avez terminé votre conférence, c'est quoi les commentaires des gens?
Ben, les commentaires, j'en ai une tonne de commentaires. Souvent, il y en a qui disaient « Ah, t'auras pas beaucoup de questions à la fin. » Moi, c'est plein de questions. Souvent, les gens, ils veulent savoir... des fois, ils vont me raconter des événements à eux. Donc, ils vont venir me voir à la fin tout seul pour me raconter leurs épreuves à eux. Ou bien pendant du tac au tac. Mais les commentaires sont très, très bons. Là. C'est en général, j'ai vraiment juste des commentaires positifs. Là. Mais j'aime pas trop me vanter. J'aime pas,
Mais vous sentez l'espoir? Vous sentez que les gens, le fait d'être passé, d'avoir dit, de livrer votre vécu, finalement, vous sentez qu'il y a des gens qui croient, believe it?
Oui, mais les gens en général, ils vont venir me voir, ils vont dire « Ah, tu vois, là, moi, j'ai un petit problème, puis là, je voyais ça gros, puis là, avec toi, tu sais, ça a diminué. » Ils viennent beaucoup me serrer la main pour me dire merci. Puis des fois, je dis « Pourquoi? » Tu sais, je veux savoir pourquoi. Ils disent « Ah, pour l'ensemble de ce que tu dis, c'est t'as un beau message, tu véhicules bien. » Moi, ça me fait plaisir, ça m'apporte beaucoup aussi à faire ces conférences-là.
Et les jeunes décrocheurs?
Ben, les jeunes décrocheurs, c'est sûr que ça les aide, veut pas, mais moi, ce qu'on peut leur apporter, parce que c'est pas juste moi, là, on est beaucoup à travailler là-dessus, puis c'est sûr qu'on a des bons résultats, là. C'est les jeunes raccrochent. Là. Ça, je pense que ça devrait exister dans toutes les écoles, ce projet-là.
Alors, on fait une pause musicale, le temps de revoir votre liste parce qu'on est rendu au jeu questionnaire. Alors, à tout de suite. Hermainville, quels sont les gens qui vous ont inspiré?
Ben moi, je m'inspire de beaucoup tout le monde, dans le fond. C'est, j'ai pas nécessairement une personne en tant que telle. C'est, des fois, je vais parler avec une personne, cette personne-là va... Il y a quelque chose que j'aime de cette personne-là, donc je vais m'en inspirer.
Vos mentors?
Mes mentors, c'est sûr que mon maître d'armes, Ildemaro Sanchez, c'est un de mes très bons mentors, mais aussi mon ami Steve, qui est mon mentor pour ma vie en fauteuil roulant. Donc, c'est les deux grandes personnes qui me mentorisent présentement.
Vos livres que vous nous recommandez?
Ben, les livres, moi, je suis pas un grand lecteur, mais les livres que je peux recommander, c'est Dan Brown. J'ai adoré tout ce qu'il a écrit, dans le fond. Pour ceux qui lisent pas beaucoup, c'est des livres qui sont faciles. On est captivé tout de suite par ces livres-là.
Et les artistes que vous aimez?
Les artistes que j'aime, il y a Loco Locas, que j'adore, mais... Que ce soit peu importe la musique, l'art, j'ai plus de difficultés, mais la plupart des artistes, je peux les aimer, mais je n'ai pas nécessairement un artiste que je pense.
Les villes, vos villes préférées?
Ah, ben ça, il y en a plusieurs. Québec, j'adore la ville de Québec.
Pourquoi?
Ben, c'est beau. Je trouve que ça fait un petit peu européen, ça a un cachet européen. Mais sinon, Florence, en Italie, c'est...
Pourquoi?
C'est riche.
J'ai besoin de pourquoi pour le questionnaire.
C'est riche en sculpture. Il y a toujours quelque chose à regarder. Il y a beaucoup de fontaines, ce que je trouve qui manque des fois ici en Amérique. Mais Rome aussi, c'est la même chose. Paris, c'est toutes des très belles villes. Puis peu importe, hein, peu importe où on va dans le monde, c'est beau. Moi, partout où je suis allé visiter, j'ai toujours aimé partout.
Alors, au plaisir d'avoir passé cette heure en votre compagnie, Pierre Mainville, je vous dis un grand merde et je souhaite que vous retrouviez aux Jeux paralympiques de Rio en 2016, que vous serez là pour nous représenter. Et puis, on peut vous entendre ici une fois par mois à l'émission de mon collègue Luc Fortin, qui est présenté, ça vaut le détour, qui est présenté le jeudi à midi à Canal M. Alors, c'est un grand plaisir aussi de vous avoir ici à Canal M. Grand merci. Merci à mon équipe Jean-Sébastien La Liberté, à la réalisation de l'émission, à la recherche Christiane Campagna, aux médias sociaux Claudia Benoît. Et je vous retrouve la semaine prochaine, mesdames, messieurs. Bye bye.